Ces dernières années ont fait vraiment grand cas de la donnée. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé de quoi était faite la donnée, ou en d'autres termes, qu'est-ce qui constitue la donnée? Une fois les data points établis, que faire de la donnée? Est-ce qu'elle est stockée, transformée, manipulée ou analysée? Et si oui, comment, par qui et à quelle fin? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Aurélien Alien. Aurélien est Head of Data pour Sphere Lille, et ensemble, nous allons brosser le tableau des pipelines de données, de l'ingestion à la restitution. Bonjour Aurélien, bienvenue.
Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir.
Avec plaisir, tu es Head of Data chez Sphere. Et alors la data aujourd'hui, on en parle beaucoup, il paraît que c'est l'or de l'informatique. Est-ce que tu... Et j'aimerais creuser un peu le sujet avec toi pour en savoir un peu plus sur aujourd'hui comment les entreprises utilisent la data et comment toi en fait tu peux accompagner peut-être les entreprises à mieux utiliser la data. Alors, sur un sujet aussi vaste, par où est-ce que tu penses qu'on peut commencer?
Alors, le premier sujet, c'est la data. Enfin, entendre que data, que minerai, que valeur, enfin, c'est ce que tu dis, hein, c'est de l'or. Aujourd'hui, la data, elle est partout. Elle est partout et pour tout le monde. Ce qu'on est en train de faire là, d'échanger tous les deux de notre domicile, ça génère de la data, il y a du flux. Et derrière, qu'est-ce qu'on va en faire, en fait, de ce flux? Quand je parcours un site internet, que ce soit un réseau social ou un site e-commerce, il y a de la data qui est générée et par moment on le sait pas. Mais par exemple, quand je suis sur un site d'un retailer, je clique sur un bouton et l'action est enregistrée parce que ça me permettra derrière d'avoir des usages en fait liés à mon comportement, des usages de type machine learning. On va essayer de me segmenter, de me mettre dans une case et d'essayer de me proposer par exemple des résultats qui correspondent le plus à ce que je pourrais faire derrière. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet, hein, la data. Et derrière, après, il y a, pour digérer tout ça, il y a ce qu'on va appeler en fait des plateformes de data, des data plateformes, qui se trouvent aujourd'hui principalement sur des solutions cloud, que ce soit AWS, GCP ou Azure, avec des services de plus en plus managés, où on va libérer en fait de plus en plus les data engineers et les équipes data en général des problématiques IT et infra. Et on va essayer de se faire un focus vraiment sur la data et sur la valeur qu'on va pouvoir en sortir par de la data viz, par du machine learning, par une combinaison des deux. L'idée, ça va vraiment être de profiter au maximum de notre donnée et en fait d'en sortir des use case métiers.
Je vois très bien. Et la data, alors c'est un peu nébuleux encore. J'imagine qu'il y a plusieurs catégories de données. Est-ce que de la data, c'est du texte brut? Est-ce que c'est des métriques? Est-ce que c'est... un événement JS, ouais.
C'est un peu tout et n'importe quoi. Je parlais du retail, donc effectivement, on a des solutions de tracking et ça va être par du JS. Donc ça va souvent être du JSON qui va transiter et c'est souvent en plus quelque chose qui est en flux. Donc on va parler de solutions comme Kafka ou comme PubSub. On va avoir des données en temps réel. On va interagir avec ces données pour les stocker et aussi pour prendre des décisions. Donc, quand je parlais tout à l'heure de spécialiser en fait le comportement de mon site web pour mon utilisateur, c'est du temps réel en fait. Donc j'ai bien récupéré de la donnée, j'ai interagi avec du machine learning et je retourne un résultat pour mon utilisateur. Ça c'est le cas peut-être le plus simple d'accès. Maintenant quand on parle de stream, il y a beaucoup d'usages en fait. Il y a les voitures connectées, il y en a de plus en plus. Il y a votre mobile, les montres connectées, enfin tout est connecté aujourd'hui. Donc ces problématiques de streaming de la data, ce sera souvent par du JSON, mais ça va être aussi des grosses problématiques côté infra pour digérer toutes ces données. Si je prends l'exemple d'un jeu vidéo en ligne, peu importe le jeu, au début je lance un jeu, j'ai quelques utilisateurs, j'ai une plateforme qui est capable d'interagir en fait avec les quelques utilisateurs. Je fais un petit peu le buzz sur les réseaux et d'un seul coup j'ai plus quelques utilisateurs mais j'ai des millions voire des milliards d'utilisateurs. Il va falloir penser en fait l'ingestion de notre plateforme en temps réel pour pouvoir interagir en fait avec nos utilisateurs. Éviter que deux utilisateurs, par exemple, récupèrent le même colis ou soient au même endroit sur une carte ou si c'est un jeu de course, enfin, peu importe. Ça, c'est bien, la data en stream, mais ça va nous amener des problématiques. Typiquement, j'ai une perte de réseau. J'ai pas envie en fait d'arrêter de jouer quand je perds le réseau. Et donc potentiellement, je vais avoir des données qui vont être perdues sur la chaîne entre mon mobile et la plateforme data. Et donc là, on va passer plutôt sur des choses un peu plus traditionnelles, sur des systèmes en fait de type batch. Et donc, on va charger des données par lot. C'est ce qu'on faisait en fait il y a déjà 40 ans quand on faisait des exports de bases de données et qu'on chargeait ça une fois pour toutes dans un data lake, dans un data ware. Peut-être que je revienne sur ces termes après d'ailleurs. Et on va faire à peu près la même chose aujourd'hui, mais avec des batches qui seront peut-être un peu plus petits. Mais ça, on sait le faire depuis ben, 40, ouais, une quarantaine d'années maintenant.
Si je peux t'interrompre, parce qu'on parle d'ingestion de données, la donnée elle est produite sur mon mobile, sur mon navigateur, peut-être à d'autres endroits, mais on va dire c'est les points d'entrée les plus classiques pour une application. Ces deux éléments-là vont me produire de la donnée. Et comment elles vont être ingérées? Et c'est donc t'as mentionné Kafka ou PubSub, mais comment en fait tu fais le lien entre les deux?
Alors en fait aujourd'hui, dans ce que je conseille, c'est d'avoir une isolation parfaite en fait entre la partie opérationnelle et la partie data platform analytics. On va faire le lien justement par ces systèmes type Kafka ou enfin système de streaming par exemple, où on va prendre en flux continu de l'information, on va la stocker telle quelle sur notre solution de data platform. C'est ce qu'on va faire aussi pour les ingestions de type batch. Mes utilisateurs, ils font des transactions. En magasin, sur le net, etc. Et ça, c'est très lié en fait à l'écosystème de mon magasin, c'est lié à la gestion de mes stocks, c'est lié à des choses très opérationnelles. Tout ça, je vais l'exporter une fois par jour, par exemple, ou une fois toutes les heures, enfin peu importe mon use case, et je vais pouvoir en fait le copier tel quel dans ma data platform. Une fois que j'ai les données dans ma data platform, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Je vais pouvoir derrière construire des dashboards pour faire du suivi en quasi temps réel de mes stocks. Je vais pouvoir entraîner des modèles de machine learning pour décider qu'un utilisateur, eh ben, il regardera peut-être plutôt ce type de vidéo ou il aura plutôt ce type de comportement. Et à ce moment-là, j'ai vraiment quelque chose de décorrélé, vraiment une isolation parfaite de mon système. Peu importe ce qui se passera sur ma partie opérationnelle, je connais toute l'histoire sur ma data platform. J'ai tout stocké depuis le début de la data platform et je vais pouvoir en fait en tirer parti quand j'en ai besoin, créer de nouveaux usages, modifier les usages courants par le comportement de mes utilisateurs. C'est quelque chose, par exemple, qu'on a vu il y a 2 ans avec le Covid. Des sites de réservation en ligne type Airbnb et autres, leur besoin, c'est de récupérer en fait les comportements des utilisateurs pour leur proposer des logements. Avec le Covid et avec ben, toute cette problématique qu'il y avait, on reste à la maison, etc. Eh ben, on a beaucoup moins loué d'hébergement, ou en tout cas, on a essayé de changer peut-être notre manière de louer quand on a pu sortir de nos domiciles. Et on voulait des choses peut-être plutôt à la campagne, à la place des grandes villes. On voulait des extérieurs, on voulait du grand air. Et ça a demandé en fait aux algorithmes de s'adapter. Quand je dis ça a demandé aux algorithmes, ça a demandé aux data scientists de retravailler leurs algorithmes. Mais c'est l'important, en fait, ça va être de travailler la différence aussi. C'est pas de se dire on a un algorithme qui fonctionne et donc je le mets en production. Il faut vraiment continuer à récupérer en flux, que ce soit en temps réel ou juste quotidiennement, de l'information pour s'assurer, en fait, que ce qu'on a mis en production en termes de machine learning soit toujours efficace et produise toujours un résultat satisfaisant pour notre utilisateur.
Et donc cette donnée, elle est récupérée entre le front et le back, si je schématise très très grossièrement, on va dire. Ton Kafka, ton PubSub, c'est surtout entre le front et le back que ça se passe, où en fait tu as beaucoup de différents niveaux où tu vas récupérer de la data.
C'est un peu partout en fait. Là, on parle de système opérationnel, on parle de front, on parle de back. Donc, on est déjà par exemple sur un site web, etc. Mais ce dont on n'a pas parlé, c'est par exemple tout ce qui se passe autour, la gestion des logs, par exemple. C'est hyper important aussi de suivre par les logs ce qui se passe sur ma plateforme. Ça me permettra d'anticiper. Ça me permettra, par exemple, d'ajouter des VM, des machines virtuelles, quand je sais qu'il y aura un pic d'activité. Ça me permettra de diminuer aussi le nombre de VM quand je sais qu'il ne se passera pas grand-chose. En fait, on va monitorer, enfin, on va pouvoir récupérer de l'information de tout ce qui peut produire de l'information. Donc vraiment, c'est la data, elle est partout. Après, il faut porter des choix et se dire, bah, on va aller jusque-là. On pourrait tout stocker, tout récupérer dans notre plateforme data, mais est-ce que c'est vraiment intéressant de garder, par exemple, les logs de mon site e-commerce pendant 10 ans? C'est pas sûr. Par contre, les garder pendant les 2-3 derniers mois, peut-être c'est un intérêt en fait pour justement tirer parti de quelque chose. Il faudra du coup essayer de comprendre déjà où la donnée se produit. Donc on a de la donnée analytics qui vient du site web directement, du parcours d'utilisateur. Il y a les données qui sont produites directement par le bac en Java, en Go, peu importe. Et il y a tout ce qui se passe au niveau de l'infrastructure. Il y a tout ce qui se passe aussi au niveau des démarches FinOps. On va essayer de suivre justement les coûts des plateformes. Donc, il faut récupérer aussi ce qui tourne, quand ça tourne, à quelle volumétrie ça tourne. Il y a de la donnée vraiment partout, partout, partout. J'ai même, pour illustrer que c'est vraiment partout, j'ai un collègue qui a réussi à connecter sa chaudière. Et de base, c'est pas quelque chose qui est naturel. Enfin, j'y ai jamais pensé. Connecter des ampoules, ça, on le voit bien, ça se fait facilement. Connecter une chaudière, ça commence à être un petit peu tricky, donc faut y aller. Mais ça permet en fait d'optimiser aussi les cycles de chauffage. On pourrait du coup imaginer que demain, les chaudières, par définition, soient connectées, que ce ne soit pas les thermostats qui soient connectés, mais directement la chaudière. Donc la donnée, elle peut être vraiment partout aujourd'hui.
Tu fais aussi le parallèle entre donc la donnée qu'on produit et l'analytique qu'on peut en retirer. Est-ce que la donnée brute, enfin quelles sont les étapes entre la donnée brute et la donnée exploitable?
Alors, c'est une question qui est plus vaste que l'échange qu'on aura aujourd'hui. Je m'explique. Je disais qu'on récupérait de la donnée depuis 40 ans par des systèmes batch. Donc, il y a 40 ans, on a commencé à construire des solutions qui n'étaient pas cloud, comme on les a aujourd'hui avec AWS, avec GCP ou autres. On avait des solutions on-prem. On appelait ça un data warehouse. Le but d'un data warehouse à l'époque, c'était de récupérer de la donnée opérationnelle, donc toute la donnée. Donc, on ne parle pas de quelques mégas ou de quelques giga, on parle de tera ou de péta, voire plus. Et le but, c'était d'interagir en fait avec ces systèmes par du SQL pour servir de la data viz. Il y a 40 ans, on ne parlait pas encore de machine learning, d'intelligence artificielle et tout ça, mais en tout cas, on en avait besoin en fait de tirer de l'information, de la quantité de données. Assez vite, on s'est rendu compte que c'était bien de stocker la donnée pour la stocker, qu'on n'avait pas forcément les usages, mais qu'on avait des limitations qui étaient apportées. Avec cette idée, en fait, on a commencé à construire ce qu'on appelle des data lakes. Les data lakes, c'est une couche qu'on va rajouter avant le data ware qui va permettre de stocker tout et n'importe quoi sous format de fichier. Donc, on est sur du blob storage. Donc, je vais pouvoir stocker du JSON, je vais pouvoir stocker des fichiers type Parquet ou Avro, je vais pouvoir stocker des images de la voix. Peu importe, en fait, je stocke tout. Et derrière, on va plugger notre data ware sur ce data lake et le data ware n'est plus qu'un moteur de calcul. Enfin, je schématise, mais c'est un peu l'idée. Avec l'avènement du cloud, ces limitations, elles n'ont plus raison d'être en fait. Donc là où on avait une limitation sur un data ware parce que c'était une machine physique que j'hébergeais, aujourd'hui le cloud propose justement d'être agnostique, de se dire bah tiens, j'ai pas de limitation en fait en termes de puissance de calcul ou en puissance de stockage. Ce qu'on va avoir en fait depuis là maintenant quelques années, c'est une modification de la manière dont on va penser les plateformes de données. Donc aujourd'hui, assez souvent, on va parler d'architecture type Lakehouse, où on va mélanger en fait le data ware et le data lake, où ce sera une seule et même solution qui va permettre d'interagir avec des fichiers plats. C'est notamment ce que fait Databricks, mais on peut le faire avec toutes les solutions data aujourd'hui. Et on a ce qu'on appelle, alors c'est très récent, c'est un nouveau modèle d'architecture, ce qu'on appelle le data mesh. Fort de l'expérience du mesh dans les environnements microservices, etc., on va vouloir faire ça avec la donnée. Et donc, on va avoir une approche différente de la donnée. La donnée ne sera plus un moyen, mais sera un but. On va parler de data as a product. Et c'est quelque chose qui est apparu, si je dis pas de bêtises, c'est en mai 2019. Il y a un article qui a été posté en disant, voilà, à partir d'aujourd'hui, on pourrait penser la data comme un produit. Et là, la problématique, elle n'est pas technologique, elle est plutôt humaine, organisationnelle. Parce qu'on avait des équipes de data analystes, de data scientists qui interagissaient avec des data engineers qui mettaient à disposition toute la donnée dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, il faut un lead en fait pour piloter ces architectures, pour piloter ces produits. et c'est un lead métier, c'est un PO qui dit, bah voilà, mon produit, par exemple la gestion des stocks, ça va gérer la partie opérationnelle, mais aussi la partie analytics et machine learning qui est associée. Donc, on a une vision 360 en fait du produit, de son utilisation par nos clients et par les autres équipes IT en fait qui se trouvent autour de nous. Et ça, c'est un gros gros changement en fait dans l'écosystème data. C'est, comme je disais, très récent et je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler là dans les années à venir. Alors, c'est pas destiné à tout le monde. Les petites entreprises n'auront pas besoin de ce type d'approche, mais les grosses entreprises sont déjà en train de migrer vers ces architectures et de modifier le mindset en fait associé à la data.
Ok. Alors tu piques ma curiosité parce que aujourd'hui tu dis qu'il n'y a pas de limitation théorique en tout cas en puissance de calcul, en puissance de stockage, mais en termes de coût et de temps, on a toujours des limitations. Ce que je me demande justement quand on récupère beaucoup de données de différents formats, est-ce que on doit se préoccuper assez vite de la transformer, en tout cas la nettoyer, ou est-ce qu'on la conserve telle quelle au cas où?
Alors encore une fois, je vais te dire, il y a plusieurs réponses. Sur l'architecture Lake Warehouse, on va tout stocker tel quel de manière brute en fait sur le lake. Et on va la raffiner cette donnée quand on en aura le besoin dans le warehouse. Donc c'est vraiment par le besoin qu'on va piloter en fait le nettoyage de la donnée, les agrégations, etc. Sur les architectures mesh, donc la next gen des data platforms, toute donnée exposée sera déjà raffinée. Donc il n'y a pas de stockage en fait de la donnée brute. Et il y a l'architecture qui est entre les deux, le lakehouse. Le lakehouse en fait va fonctionner par couche, par layer. Donc on a trois couches qui vont se combiner. La couche de données brutes qu'on appelle bronze, pardon. La couche de données raffinées de qualité. Donc là, si on a besoin, par exemple, d'uniformiser une colonne, etc., c'est là qu'on va le faire. Donc là, c'est la couche silver. Et il y a la couche gold. Tu le disais tout à l'heure, hein, la data, c'est de l'or. Et ben voilà, on est sur cette couche gold. Et donc là, on va répondre à un besoin. Et c'est vraiment le métier, en fait, qui va d'abord exprimer son besoin et les équipes data qui vont essayer d'exposer, en fait, la donnée pour ce métier. Mais oui, enfin, la partie stockage, encore quoi que... Sur le cloud, c'est pas très cher. C'est pas là où il y a le plus de coûts. Ce sera plutôt sur la partie processing. Et là, il y a des outils qui sont plus ou moins performants suivant les usages.
Ces volumes de données qui ont explosé peut-être au début des années 2010 avec le web ont entraîné différentes solutions pour traiter au mieux la donnée. Donc, faire le calcul directement là où était la donnée plutôt que de devoir la rapatrier, etc., etc. Donc, ça a toujours été un problème. Et là où tu me parles de choses qui finalement vont amener un résultat quasiment temps réel, j'imagine que le besoin de processing, de compréhension de la donnée est quand même assez immédiat.
Oui. En fait, bon, effectivement, en 2010, enfin, début 2010, on s'est rendu compte qu'on stockait beaucoup de données et que SQL n'était pas suffisant pour faire le processing. En 2010, on n'était pas encore sur du temps réel tel qu'on le pense aujourd'hui avec une décision en quelques millisecondes. Et donc, il y a des solutions open source qui sont apparues. Tout l'écosystème Hadoop, après le suivi de Spark, qui est une refonte en fait d'Hadoop, qui ont permis justement d'adresser ce besoin de processing dans l'écosystème Big Data. Maintenant, aujourd'hui, en 2022, je dirais pas que Spark est plus d'actualité. Enfin, Spark est l'écosystème Hadoop. Avec Spark, on peut faire du streaming. Il y a d'autres librairies comme Apache Beam qui permettent aussi de faire du processing avec une approche beaucoup plus unifiée pour Beam parce qu'avec une seule pipeline, on peut faire du batch et du stream. Mais je sens, et là c'est vraiment un sentiment que je te livre, je sens que SQL n'est pas mort et que SQL en 2022, on va en entendre parler beaucoup plus. Il y a de plus en plus d'initiatives en fait. Alors je parlerai de BigQuery parce que c'est l'un des outils que je maîtrise le plus, mais BigQuery te permet en fait d'adresser des pétas voire plus avec du SQL, avec des temps de réponse très courts. Et si tu optimises le stockage de ta donnée, la manière dont tu vas exprimer ton schéma, les coûts sont relativement faibles. Il n'y a pas de notion, enfin c'est un produit qui est serverless, donc il n'y a pas de notion de VM. Tu paies vraiment à la consommation que tu fais du service. Donc ça, c'est le premier atout pour le SQL. Le deuxième, c'est qu'il y a d'autres solutions en fait du marché en dehors des cloud providers qui se tournent de plus en plus vers ce langage. En 2020, on a commencé à parler de DBT pour Data Build Tool, qui est la possibilité en fait d'orchestrer nos traitements de données, donc ce qu'on appelait les ETL, Extract Transform Load, vers un ELT. On va d'abord loader la donnée et la transformer après via du SQL. Et DBT va nous permettre en fait de faire ça via des fichiers YAML de configuration de manière très très simple. Ils ont une offre cloud qui est très alléchante. Il y a d'autres solutions comme ça, comme Dataform maintenant qui a été racheté par Google, qui permettent en fait d'exprimer tous nos besoins de transformation de données en big data par du SQL. Databricks a aussi aujourd'hui un moteur SQL performant. Derrière, c'est transformé en Spark, mais on n'a pas besoin de connaître en fait Spark pour travailler sur des big data avec du SQL. Et je crois que c'est une vraie tendance en fait qu'on va pouvoir suivre là dans les mois à venir, c'est que le SQL, c'est un langage facile d'accès. Qu'on fasse de l'infra, qu'on fasse de la data ou qu'on fasse du dev, le SQL, en fait, on le connaît, on l'a appris en école ou en université. Et le fait, en fait, de le mettre à disposition de tout le monde, ça va libérer encore plus d'usages. Parce que c'est aussi un mouvement aussi de libérer les usages et de libérer la data dans les entreprises. Il y a tout ce qui est gouvernance de la donnée aujourd'hui qui est vraiment le cœur, en fait, des problématiques des architectures data. Avec aussi bah, tout ce qui est lié au RGPD et autres. On veut s'assurer que tout le monde n'ait pas accès à tout. Mais en tout cas, on a envie aussi de libérer parce que, bah, ce que je disais, hein, le coût de compute, de processing est de moins en moins élevé parce que les solutions sont de plus en plus optimisées.
OK. Si on essaye de partir sur un cas concret, mettons que j'ai un site de e-commerce et que j'ai envie de tirer avantage des données justement qui sont générées par mon site. Donc aussi bien les ventes, mais les interactions que mes clients ont avec le site ou avec l'application mobile. Je viens de voir comment est-ce que ça va se passer pour... Est-ce que tu vas me conseiller une stack data et m'amener à pouvoir exploiter ma donnée?
Alors oui, je vais te conseiller une stack data. C'est le but de mon métier. Cette stack, elle sera sûrement autour de GCP parce que ben, c'est le produit qu'on maîtrise le plus chez Sphere. Il y aura pas mal de questions en fait à mettre à lancer en fait avant de construire et de poser des briques. La première question, c'est quelles sont les équipes en fait qui vont pouvoir interagir. Tu parles de e-commerce, mais est-ce qu'on est un gros retailer ou un petit retailer? On va pas construire les choses de la même manière en fait. Ce que je vais mettre en avant et ce que je fais pour les gros et les petits, c'est que je vais plutôt orienter mes solutions vers des solutions managées. On n'a plus envie, en tout cas c'est ce que je ressens chez mes clients, de manager des plateformes Hadoop où il faut choisir telle machine, la configurer avec telle version du logiciel pour être sûr que ça fonctionne, etc. Et donc, on va plutôt partir vers des produits complètement managés comme Dataproc sur GCP ou d'autres ailleurs. Le but, ça va vraiment être de juste interagir avec la donnée. Si on est un petit client, bon, petit, c'est relatif, mais je vais essayer de pousser un maximum l'usage de BigQuery. Parce que BigQuery, c'est en fait deux solutions. C'est une solution de stockage à l'intérieur, qui s'appelle Colossus, et une solution de processing, qui s'appelle Dremel. Et les deux solutions, elles sont optimisées pour ce qu'elles ont à faire. Donc la première, elle permet de bien stocker les données, de ne pas avoir de perte de données, pour un coût relativement faible. Et la deuxième, la couche de processing, ça va me permettre en fait d'interagir avec toute ma donnée en SQL. Et de la même manière, c'est optimisé par Google. Donc j'ai pas besoin en fait de réfléchir à ce qui se passe derrière. Il y a des benchmarks qui sont sortis, et c'est assez facile de les retrouver, hein, où une même requête exécutée il y a, je ne sais plus, je crois que c'est il y a 5 ans et exécutée aujourd'hui, bah, les temps en fait, de réponse sont divisés, si je ne dis pas de bêtises, c'est par 10, pour le même coût en fait en tant qu'utilisateur. Il n'y a pas eu de surcoût en fait BigQuery, ça n'a pas évolué dans le pricing. Donc ça, c'est pour les usages qui pourraient y répondre. Maintenant, on ne peut pas tout faire avec BigQuery, ce n'est pas magique. Tout ce qui est streaming, par exemple, connecter un Kafka, on parlait de Kafka tout à l'heure, à BigQuery, c'est pas faisable en l'état. Il n'y a pas quelque chose d'auto-configuré. Donc, on va avoir besoin d'une brique de processing au milieu. Et ce que je conseillerais plutôt, c'est des briques type Dataflow sur GCP. Dataflow, c'est un runner de Apache Beam. Donc, on reste sur une solution open source. Mais le moteur de Dataflow est optimisé par Google pour Beam et va nous permettre en fait de faire de l'ingestion en temps réel et stocker l'information dans GCP, dans BigQuery. Tout ça de manière serverless. Donc, encore une fois, j'ai pas besoin de penser l'infra, en fait. Je déploie juste mon code. C'est du code Python ou du code Java. il y a une initiative en Go, mais c'est pas encore prêt pour la production. Mais l'idée, ça va vraiment d'utiliser en fait ces plateformes serverless, ces outils serverless, et de faire un vrai focus sur le code, sur la valeur ajoutée de mes data engineers, de mes data scientists, pour éviter en fait de perdre trop de temps sur l'infra et sur tout ce qui n'a, alors c'est entre guillemets, ce qui n'a pas de valeur en fait. Donc faire des montées de version sur un cluster cube dans la data, ça n'a pas trop d'intérêt. On est obligé de passer par des personnes qui gèrent ça. Donc ça rajoute de la latence en fait sur ça. Et là, enfin, d'utiliser ces produits serverless, ces produits managés, bah, ça nous libère en fait de toute cette problématique d'infrastructure. Et on va pouvoir travailler très rapidement notre donnée, on va pouvoir se tromper, on va pouvoir adapter aussi notre code par rapport à ce qui est produit du côté opérationnel, sans être tributaire d'une roadmap d'une autre équipe ou d'autres personnes, de disponibilité d'autres personnes. Et c'est vraiment ça que je vais essayer de pousser. Toutes les réponses là que j'ai pu construire depuis le début du Covid, c'est à peu près ce que j'ai pu faire.
Mettons que je ne sache pas exactement quoi tirer de mon site marchand. Est-ce que tu es en mesure d'aiguiller ou est-ce qu'il faut déjà que moi, de mon côté, je vienne avec une demande très précise? Ou alors est-ce qu'il y a quand même des cas d'usage assez fréquents en fonction de justement, t'as un site de e-commerce ou t'as un forum ou peu importe en fait ce que j'utilise. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui seront toujours à peu près les mêmes pour chaque use case, ou alors chaque cas est différent?
Alors, dans le commerce, dans le retail en général, il y a des choses qui vont être naturellement la même chose. Enfin, suivre le parcours d'un utilisateur, essayer d'avoir une vue 360. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. La vue 360, c'est suivre le comportement d'un utilisateur en magasin et sur le e-commerce et d'essayer d'avoir quelque chose d'homogène en fait entre tout ça et de vraiment comprendre en fait mon client. Donc ces choses-là, en fait, ça va être assez générique. Le suivi des stocks, le suivi des transporteurs, des commandes, etc. C'est quelque chose qu'on retrouvera toujours dans l'e-commerce. Maintenant, il y a des marchés qui sont plutôt des marchés de niche, comme le marketing, par exemple. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des patterns préétablis. Et c'est aussi beaucoup plus difficile de trouver des métiers, enfin, les métiers de data analyst, qui comprennent déjà la donnée qui est produite par les systèmes marketing. Donc, c'est des personnes qui vont être très spécialisées, qui ont une forte appétence pour la compréhension de la donnée, pour faire parler la donnée. Mais c'est un métier différent, en fait. Il y a plusieurs casquettes dans les équipes data. Et chaque métier est très spécialisé, en fait, dans sa coloration. Un data engineer, il ne sera pas capable, en fait, de faire parler la donnée. Enfin, grossièrement, il pourra. Mais vraiment rentrer dans le cœur de la donnée, comprendre la donnée, la modéliser pour la présenter à une cellule de décision. C'est pas son métier et il saura pas le faire aussi bien qu'un data analyst. De la même manière, un data analyst, ben, se connecter à un Kafka, récupérer de la donnée en temps réel, la mettre à disposition justement pour servir les besoins d'analyse, ben, c'est pas son métier. Il pourra le faire, mais il le fera peut-être pas de manière optimisée. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir des métiers très spécialisés dans les équipes data qui sont capables d'interagir entre eux pour apporter des réponses. Et on a du coup des personnes qui sont des data analysts très retail, des data analysts très marketing ou peu importe en fait le métier de l'entreprise dans lequel on intervient.
Je vois. Mais après, tu m'as dit faire parler la donnée. C'est intéressant comme terme. Est-ce que je retire justement ce que j'ai à retirer de la donnée? C'est-à-dire que tout est passé par ma chaîne de data engineer, data analyst. Eux, après, comment est-ce qu'ils font parler justement cette donnée? Quel est leur rendu au final? Donc, on a parlé évidemment de DataViz et de ML. C'est principalement ça ou il y a d'autres manières de présenter la donnée?
Alors, il y a la DataViz, c'est vraiment la science de l'exposition de la donnée. Les outils de DataViz aujourd'hui, que ce soit les solutions type Looker qui ont la possibilité d'exprimer aussi des demandes par du SQL ou les solutions un peu plus traditionnelles comme Tableau ou Superset, ils ont des connecteurs pour tout et ils peuvent exposer tout type de données. Avant, on était assez limité, on avait des tableaux et des graphes. Maintenant, on peut exprimer par des cartes. Enfin, il n'y a pas de limitation en fait à l'expression. Donc, c'est vraiment par ces outils qu'on va pouvoir présenter l'existant de la donnée, l'historique. Et donc, très facilement, si je veux dire, ben, je veux suivre l'évolution de mes produits sur les 6 derniers mois pour prédire en fait, pour anticiper les commandes à réaliser pour servir mes utilisateurs, c'est par ce biais-là en fait que je vais passer. Le machine learning, c'est l'inverse en fait. C'est que je vais utiliser les données pour prédire un comportement futur. Et donc je fais pas je fais pas le constat en fait de ce qui s'est passé, c'est que je vais utiliser ce qui s'est passé comme un levier pour prédire le futur. Et c'est aujourd'hui les deux gros piliers d'utilisation en fait des stack data. C'est pour ces personnes-là, pour ces besoins-là, qu'on va justement ramener toute notre donnée, qu'on va avoir des data engineers qui vont nettoyer la donnée, l'agréger, la mettre, qu'elle respecte les standards de sécurité et autres, pour justement comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle et anticiper les besoins futurs.
D'accord, ce parcours de la donnée, on va dire, si je prends encore un cas précis, j'ai toujours mon site de e-commerce et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur un article et il y en a très peu qui finissent par l'acheter. Est-ce que avec un pipeline de données, je serais en mesure de comprendre, par exemple, pourquoi à ce moment-là j'ai plus d'engagement de la part de mon utilisateur. Est-ce que ça, par exemple, ça peut être tiré de la donnée ou c'est encore trop subjectif?
Alors, je dirais pas que tu pourras le comprendre parce que y a une partie qui est liée au comportement de mes utilisateurs et donc à leur sentiment vis-à-vis du produit. Par contre, tu vas peut-être pouvoir la mettre en corrélation avec d'autres produits. Effectivement, je prends par exemple un cas assez récent. On a vu avec le Covid, il y a eu une problématique de livraison en fait de certains matériaux. Et donc, par exemple, la construction de vélo ou la mise à disposition de pièces détachées de vélo, c'était très compliqué. Et encore aujourd'hui, ça n'a pas repris vraiment le flux. Et donc, si je fais le constat, par exemple, que mes utilisateurs ont tous été sur le vélo rouge, mais que personne n'a acheté, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de stock. À l'inverse, peut-être qu'il y a du stock, mais que le vélo bleu, en fait, il sera disponible dans une semaine, il est quasiment au même prix, et en plus, il est mieux. Et ben, peut-être que c'est ça, en fait. Donc, le but, c'est pas de comprendre d'avoir le sentiment de l'utilisateur, c'est de mettre en fait en perspective ça au niveau un peu plus global en fait. Et effectivement, mes utilisateurs, ils transforment pas sur le rouge, mais s'ils transforment sur le bleu, c'est tant mieux pour moi, ils transforment quand même. Donc il y a plein de données comme ça en fait qu'on va pouvoir croiser, et le fait de les croiser, ça va nous permettre d'avoir la big picture en fait de ce qui se passe vraiment. Là où ce serait problématique, c'est que tous mes utilisateurs, tous mes clients viennent voir les vélos, mais que personne n'achète, qu'il n'y a pas de transformation derrière. Là, il y a peut-être un vrai problème. Alors, ce sera un problème sur la gamme, sur la marque, un manque de confiance. Il s'est peut-être passé quelque chose sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, ça, on peut le croiser aussi. Peut-être un bad buzz impliquerait une perte en fait du taux de transformation, parce qu'on n'a plus confiance dans la marque. Donc, du coup, il faudra peut-être retravailler le marketing, etc. Mais le but, ça va vraiment être de comprendre au total de toutes les données que j'ai à disposition ce qui peut se passer, et essayer d'avoir des actions positives et de suivre en fait le monitoring en fait. Enfin, c'est pas du monitoring, mais suivre l'évolution en fait des chiffres pour voir si ça a un impact ou pas.
Et par rapport à la data, qui est en fait est le demandeur de la data? Là, tu vas mettre tout un process en place pour traiter la data et arriver à en tirer du sens, la faire parler. Et qui est ton premier client, je veux dire, en termes de quelle équipe? C'est plutôt des chefs de produits qui veulent mieux comprendre justement ce qu'ils ont mis en place. Est-ce que je sais pas quel autre type de personne?
Ouais, ça peut être ça en fait. Ça dépendra vraiment des données et des usages en fait. Un chef de produit qui a changé la manière dont il exposait la donnée sur son site e-commerce ou via les rayonnages en magasin, il a envie de voir s'il y a une transformation derrière. Est-ce que ça change quelque chose dans le comportement de mes utilisateurs? Donc il peut venir et aller nous demander en fait de mettre à disposition cette donnée. Un autre côté, ça peut être le data scientist aussi. Il a entraîné un modèle, il lui manque des données, il le sait pertinemment qu'il lui manque des données, et il va se mettre en quête en fait de données qui lui manquent. Ce qu'on va mettre à disposition du coup de nos utilisateurs, c'est plutôt que d'interagir directement avec les équipes data engineering, c'est de mettre un outil en fait de search au milieu, on appellera le data catalogue, qui va exposer toutes les données qui sont à disposition en fait dans la plateforme data. Et donc mon data scientist, s'il a besoin, je sais pas, des images de tous les produits du catalogue, eh ben il va avoir un moteur de recherche type Google, il va taper produit image et on va le rediriger vers les bons datasets qui contiennent les informations. Si l'outil de data catalogue est bien fait, il pourra demander à avoir accès à la donnée, il aura tout un schéma qui explique ce qu'il y a dans la donnée, etc. Et le propriétaire de la donnée pourra lui donner accès ou non, suivant le cas et suivant les données qui sont derrière.
Au niveau de ma stack applicative, est-ce que je peux bénéficier d'analyse de data sans changer ma stack, ou est-ce que j'ai des changements à apporter particuliers à ma stack applicative?
Quand tu parles de stack applicative, je suppose que c'est la stack de ce que tu exposes à tes clients.
C'est ça, je prends un schéma, voilà, très classique, un front, un back, peut-être une DB, mais classique.
Si on utilise les choses, les technos d'aujourd'hui, non, il n'y a rien à changer. Je le disais, on peut par exemple, à partir des données du back, envoyer des informations dans un topic Kafka, ça ne changera pas les performances de mon site e-commerce. De la même manière, on peut utiliser aujourd'hui des solutions qu'on appelle CDC, Change Data Capture, qui vont capturer les transformations qui sont appliquées sur ma base de données. Donc en temps réel, je vais pouvoir aussi répliquer ça. C'est pareil, ça n'implique pas de gros changements de perf en fait sur ma base de données. Normalement, si c'est bien pensé, et c'est pour ça qu'on a l'isolation en fait entre les deux systèmes, il n'y a pas de changement à appliquer. C'est justement ça l'intérêt en fait de construire une data plateforme moderne, c'est que on peut continuer à travailler comme on travaillait avant et commencer à ramener de la donnée suivant les besoins qu'on avait déjà identifiés. On n'est pas obligé de faire du 1 pour 1 tout de suite. On n'est même pas obligé de faire du 1 pour 1 plus tard en fait. Ça dépendra vraiment de ce qu'on veut en faire de nos données.
Tu mentionnes des technos d'aujourd'hui, alors c'est un peu vague. Dis-moi, est-ce qu'il faut que ce soit des VM, des containers? Est-ce que c'est on ne peut pas utiliser PHP parce que c'est trop vieux ou
Je ne rentrerai pas dans le détail des langages, hein, sinon on va rentrer dans un débat interminable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les langages ou c'est pas la manière dont on héberge les composants qui va vraiment avoir d'impact. L'impact premier, c'est la manière dont on va accéder à la donnée. Si je fais, par exemple, on parlait des bases de données, et par exemple de faire du change data capture. Donc, on va capturer les événements au fur et à mesure du temps. Donc, régulièrement, on va envoyer des événements vers la data platform. Ça, c'est la manière peut-être la plus récente en fait de faire. On va faire du stream en fait. Ce qu'on peut faire, c'est faire des dumps aussi. Donc, je vais prendre toute ma base de données et je fais un dump. Le dump, par nature, c'est une opération en fait sur la base. Donc, ça va impacter les performances de ma base. Et donc, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on le fait la nuit, là où j'ai le moins d'utilisateurs en fait qui utilisent cette base de données. Maintenant, si j'ai un besoin un peu plus régulier, je veux récupérer un dump toutes les heures. C'est-à-dire que toutes les heures, en fait, je vais dégrader les performances de mon système. Donc, c'est pas, quand je dis moderne, c'est dans l'approche, en fait. C'est pas dans les langages ou dans les technos. Même si, bien sûr, côté opérationnel, d'avoir du Kubernetes qui va permettre de faire le scaling en cas de besoin, si j'ai plus ou moins, besoin de ressources par rapport au trafic, oui, c'est toujours mieux. Mais c'est pas nécessaire, en fait, pour construire une plateforme data. C'est pour ça qu'il y a cette séparation et qu'aujourd'hui, des retailers, peut-être, ou des entreprises qui sont déjà établies peuvent passer sur des systèmes cloud avec des data plateformes modernes, complètement managées, etc., sans que ça impacte les systèmes plus vieillots qui ont peut-être 20 ans, par exemple. Et on a aujourd'hui des clients qui, on le sait, ont des systèmes en prod, qui envoient de la donnée tous les jours, qui stockent ça dans un cloud storage ou dans un bucket S3, mais on ne sait pas qui propose ce service en fait. On n'a plus de porteur de l'information, donc on ne sait pas où le service est hébergé vraiment, on ne sait pas s'il y a un GitHub ou un GitLab qui est associé, on ne sait pas qui avait développé la solution. Et dans certains cas, on ne sait même pas si c'est encore utilisé, même côté data analyse. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plutôt essayer d'avoir cette approche un peu normative avec un data catalogue qui exprime quelle est la donnée, qui produit cette donnée et qui consomme cette donnée. Ça permettra, en cas de changement, d'avertir les consommateurs et le jour où il n'y a plus de consommateurs, ben peut-être d'arrêter le service.
Ok, mais alors ça me paraît compliqué peut-être, en tout cas de mon point de vue, cette histoire de data catalogue. J'ai un front qui tourne, qui me génère de la donnée, donc ça va être, je sais pas, un stream d'event. Est-ce que j'ai besoin déjà d'instrumenter plus mon code avec quelque chose de spécial ou c'est le code nativement qui va se suffire pour générer ce stream d'event assez parlant, on va dire, pour moi?
Non, en fait, c'est vraiment là que la séparation en fait entre les deux plateformes elle est intéressante. C'est que ton front il va continuer à tourner. Alors effectivement, il va falloir que tu envoies l'information dans la data plateforme. Si tu utilises par exemple des systèmes comme Google Analytics, c'est fait de manière transparente en fait pour toi. On l'a vu récemment dans la presse, hein, il y a eu des soucis de données qui repassaient par les États-Unis par Google Analytics. La CNIL a levé la main et évoqué les RGPD. Donc ça le faisait nativement et tu retrouvais tes données dans BigQuery. Il y a d'autres systèmes open source qui permettent aussi de faire de l'analytique sur le front où toi tu vas vouloir pousser de la donnée. Ce qu'il faut, c'est juste avoir un tunnel à un moment qui permet en fait de faire le lien entre ces deux plateformes. Et par ce tunnel, tu vas mettre de la donnée brute dans ton data lake ou dans un autre système. Et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à utiliser un data catalogue. Un data catalogue, si on veut le schématiser, c'est un moteur de recherche qui va utiliser les métadatas de tes datas. Donc tu vas savoir que le fichier, enfin c'est pas automatique, hein, mais tu vas pouvoir dire que le fichier qui se trouve dans tel bucket correspond aux ventes pour l'année 2022, par exemple. Donc quand un utilisateur va chercher vente 2022, il va tomber sur ce bucket, il tombera peut-être sur des données dans BigQuery, dans Redshift, dans les systèmes de processing. L'idée, ça va vraiment être de comprendre où se trouve la donnée qui m'intéresse. Et c'est vraiment où elle se trouve dans ma data plateforme. C'est pas lié forcément au système opérationnel.
D'accord. Le dossier dans lequel elle se trouve, d'une certaine manière, c'est une sorte de tag. Donc, c'est ce qui me permet de mettre un label sur ma donnée. C'est les ventes pour avril 2021. Et je sais que c'est là. Mais qui, en fait, va s'occuper de créer ce catalogue? Est-ce qu'il y a un moyen de l'automatiser? Ou alors, il faut déjà avoir une sorte de structure de données parce que enfin, la métadata n'est pas présente à la base. Pour moi, on a un flux de données. Donc, il y a de la donnée brute. Comment on l'enrichit avec de la metadata et c'est le rôle de qui de l'enrichir avec de la metadata?
Alors, il y a un métier qui s'appelle le data steward qui est porteur de justement la vérité de la donnée. C'est lui qui est censé connaître la donnée dans la data plateforme. Toute la donnée ou une partie de la donnée, ça dépend en fait de la taille des organisations. Après, en termes de data catalogue, en termes d'outils, il y a plusieurs types d'outils. Il y a l'outil simple d'accès qui ne répond pas à tous les besoins mais qui est disponible facilement. Sur GCP, par exemple, on a Data Catalog. Le nom, il est assez parlant. Et on va vraiment utiliser les labels, en fait, associés aux différentes données stockées. Donc, si j'ai un fichier sur un cloud storage, via les labels, en fait, je vais pouvoir l'utiliser comme étant la metadata exposée dans Data Catalog. Quand je vais faire le search, c'est par rapport à ça que je vais pouvoir retrouver mon fichier. Ça marchera avec BigQuery aussi, ça marchera avec d'autres produits. Après, des solutions commerciales en dehors, comme Colibra, qui font pas qu'un catalogue de données. C'est une solution de data gouvernance au sens large. Et là, on a des personnes qui vont avoir comme rôle, en fait, d'alimenter ce data catalogue et d'exprimer, en fait, que tel type de fichier correspond à tel type de données. C'est des solutions qui vont être beaucoup plus complexes à prendre en main, beaucoup plus complexes dans ce qu'elles peuvent proposer aussi vis-à-vis de mes utilisateurs. Et le troisième type, c'est ce que font les grosses entreprises, enfin quelques grosses entreprises aujourd'hui, c'est que je vais construire le data catalogue qui me convient. Quand on prend une solution du marché, ben on prend les fonctionnalités de la solution, et souvent il manque des choses, ou en tout cas il faudrait contourner en fait la solution. Et donc, par exemple, Airbnb a développé son propre moteur de data catalogue qui correspondait vraiment à ses besoins, qui facilitait en fait l'usage du data catalogue dans son organisation, pour l'alimentation ou pour la consultation. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment quelque chose qui fit parfaitement aux besoins qu'on a. Et tout ce qui est, par exemple, problématique de gestion d'accès à la donnée, on va pouvoir le customiser par rapport à notre besoin. on va pouvoir créer, par exemple, des matrices de droits, et on va exposer en fait en interne des données qui sont publiques, des données qui sont privées, des données confidentielles, des données, enfin voilà. Et on va pouvoir aussi ajouter des tags. Les législations sont de plus en plus strictes. Nous, en Europe, on a les RGPD, on a la CNIL aussi qui apporte pas mal de choses en France. Aux États-Unis, ils ont leurs propres règles. Depuis septembre 2020, la Chine a un RGPD-like dont j'ai oublié le nom. Et si on utilise une solution du marché, potentiellement, on va bénéficier de tout ça, mais ça correspond pas forcément à ce que je veux. Et si on utilise une solution open source, ben le temps que ce soit appliqué dans la solution open source, ben je suis un peu démuni en fait. Donc on voit de plus en plus d'acteurs qui vont développer soit une solution from scratch en partant de rien, soit qui vont adapter une solution existante ou prendre quelques briques seulement des solutions existantes. Mais il y a des vraies personnes en fait dont c'est le métier de gérer ça, et suivant l'organisation, c'est plus ou moins des grosses équipes en fait.
D'accord. Alors, est-ce que le data catalogue vient un peu supplanter l'idée d'avoir un data warehouse qui est en mesure de transformer la donnée pour chaque équipe en fonction de son besoin? Mettons que j'ai l'équipe qui va gérer des commandes, a besoin d'avoir une vue du stock et donc va avoir besoin de charger la donnée pour ses propres besoins sous une certaine forme. J'ai peut-être l'équipe marketing qui veut consommer ces mêmes données, mais d'une autre manière, etc. Donc, généralement, on avait plusieurs data warehouse pour créer plusieurs sets de données qui étaient consommables par différentes équipes. Est-ce que le data catalogue permet d'abstraire un peu ça et d'aller mettre un schéma, enfin le schéma qu'on veut sur la donnée brute, ou est-ce qu'il y a des étapes entre les deux?
Alors, le data catalogue, il est... C'est une solution un petit peu bête. C'est qu'un moteur de recherche, en gros. Donc, c'est pas lui qui va porter la définition de la transformation de la donnée. Maintenant, si une équipe qui veut récupérer, ben, qui veut construire un dashboard de vente a besoin de la donnée sous un certain format, l'équipe qui est chargée, justement, de construire ce dashboard va utiliser le data catalogue, va voir que les données de vente, elles se trouvent dans tel dataset ou sur tel fichier, va regarder la tête du schéma et va se dire, ben, en fait, ça correspond pas à mon besoin. Et donc là, on va pouvoir interagir, enfin, les équipes de data analyse vont pouvoir interagir avec les équipes de data engineering pour dire, bah voilà, vous exposez la donnée sous ce format-là, mais ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on veut. Est-ce que c'est possible, en fait, d'avoir un schéma particulier pour notre usage qui corresponde vraiment à ce que nous, on a besoin d'exposer dans ce dashboard? Là, on rentrera dans une politique un peu projet où si on a des roadmaps, si on est sur des cycles Scrum, etc., est-ce que c'est faisable facilement ou pas? Ça dépendra des organisations, de la manière dont on travaille, en fait. Mais le data catalogue n'est que le reflet de ce qui est stocké à l'instant T. Donc, c'est pas lui qui porte les transformations. Il y a un autre concept, et on en ajoute énormément, c'est la foire au concept, c'est le data lineage. Et c'est ce que tu veux, en fait, ici, c'est te dire, ma donnée, elle arrive à un endroit, sous format brut, donc dans mon data lake, et elle est exposée un moment à des utilisateurs par le data ware. Quel est le chemin, en fait, que ma donnée a suivi pour arriver de la source jusqu'à la destination? Quelles sont les transformations qui ont été établies, par où elle a été stockée, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le lineage. Et certaines solutions de data catalogue sont capables d'exposer le lineage. Et donc, quand mon analyste souhaite accéder aux données de vente, il va trouver le bon dataset et il va être en capacité de se dire aussi, bah, tiens, il est passé par telle étape de transformation, ça a été stocké à tel endroit au milieu du processing, et à la base, ça venait du data lake. Et donc, il sait que dans le data lake, il y a peut-être quelque chose de différent, en fait, et que la donnée qui lui manquait, bah, elle est présente, mais juste pas utilisée, en fait, dans le data ware.
Est-ce que ça veut dire que dans ces étapes de transformation, est-ce qu'on est obligé de répliquer à plusieurs endroits différents la donnée, ou alors on part toujours de la même source et on applique, en fait, une transformation quasiment à la volée pour un besoin précis?
Alors, on a un principe de single source of truth qui va te dire la donnée, la vérité, c'est cet endroit-là. Donc, quand tu as un pattern data lake, data ware, c'est le data lake, en fait, qui est la vérité. Tu vas charger des données dans ton data ware et si tu fais bien les choses, tu vas les exposer par des vues ou d'autres systèmes, en fait, qui vont faire le compute quand on a le besoin. Maintenant, c'est pas la solution. Si tu n'utilises qu'une solution comme un lakehouse, où tu stockes tout dans une seule et même solution, les données, tu vas pouvoir peut-être les préprocesser tout de suite dans les différentes couches, en fait, parce que tu sais que les utilisateurs vont en avoir le besoin. Ça te permettra de mettre en place des systèmes de pseudo-cache plutôt que de faire le compute à chaque étape. On a dit par exemple tout à l'heure avec BigQuery, le pricing, c'est au moment où je exécute une requête. Si tu sais que tu as 100 utilisateurs qui vont faire la même requête toutes les heures, bah, c'est peut-être intéressant, en fait, de pré-mâcher le travail pour ne faire la requête qu'une seule fois et ne payer qu'une seule fois le coût de cette requête. Donc là, ça dépendra vraiment de tes utilisateurs, de leur utilisation de la plateforme et du format de tes données, en fait, en entrée.
Ok, alors mettre tout ça en place, ça a nécessairement un coût. Alors aujourd'hui, même si les gens sont conscients qu'il y a énormément à tirer des data qu'on produit, est-ce que tu mets toujours en perspective le coût versus les bénéfices qu'on peut en retirer quand tu démarches un client? Enfin, démarche, je me comprends, mais quand
En
tu réponds en tout cas
consultation,
à
oui,
un
c'est ça.
besoin.
Alors effectivement, quand on fait une réponse, on essaie de proposer une ou deux architectures qui correspondent aux besoins des clients. Donc on va d'abord passer par une démarche d'audit. On va comprendre le besoin. On va essayer de comprendre s'il y a une data plateforme, ben, les problématiques liées à cette data plateforme. S'il n'y en a pas, ben, on va essayer de comprendre ce qui se passe aussi côté opérationnel. La problématique du chiffre, c'est qu'il faut connaître en fait aujourd'hui l'utilisation qu'on fait de la donnée. Donc un client qui va se lancer, qui n'a pas de data platform, qui ne connaît pas vraiment ses usages, ça va être assez compliqué en fait de lui donner un chiffre. Donc ce qu'on va plutôt mettre en avant, c'est l'approche POC. On va démarrer petit, avec des briques qui sont justement simples à prendre en main, qui sont managées, qui ont un coût relativement faible, pour essayer d'avoir un use case standard. Une fois qu'on a un use case standard, bah si on doit appliquer 1000 fois ce use case, c'est assez simple, on fait une multiplication et on a un centime. Quand c'est une migration d'un cloud provider ou d'un système on-prem, on sait aujourd'hui ce qui est fait. Et à partir de là, c'est plus simple en fait de mettre en place une calculatrice qui va nous permettre de faire une estimation du shift de plateforme. Maintenant, la plus grosse incertitude, elle n'est pas sur la plateforme, mais elle est sur l'humain. Si je mets, ben, si j'ai une équipe en fait en interne de X personnes, ou si je gère tout par de la prestation, ce sera pas forcément les mêmes coûts aussi. Donc ça, on essaie aussi de sensibiliser les clients, alors en leur expliquant que ben la plateforme c'est bien, mais il y a d'autres coûts associés. Il y a aussi les coûts de run. Ben si mon système est toujours en carafe et qu'il faut faire de la maintenance tous les jours, ben c'est de l'argent que je perds aussi. Et ça rentre dans une démarche un peu plus globale aussi qu'on essaie de porter chez Sphere, c'est la démarche FinOps. On va essayer en fait de piloter le budget par le produit. Donc plutôt que de dire bah, à la fin du mois ça coûte autant, on va essayer de comprendre ce que sont les autant, où l'argent a été dépensé, pourquoi, et de suivre en fait de monitorer le billing par l'usage de la plateforme. Et ça c'est une démarche qui est assez nouvelle, on n'est pas les seuls à utiliser ça, hein. Mais plutôt que de dire, bah voilà, on a tel budget et on va cramer tel budget pendant l'année, là, on essaie d'être, ben, d'être proactif en disant, bah voilà, la plateforme va coûter ça. Et quand ça sort des clous, ben, il faut chercher, il faut comprendre pourquoi. Et là, ça passe par beaucoup de monitoring. Et c'est ce qui est intéressant avec les plateformes cloud, c'est qu'elles nous facilitent tout ça par les logs qui sont directement accessibles par les solutions des cloud providers. Et très facilement, on va pouvoir construire des dashboards, non pas à destination bah, notre métier premier d'entreprise, mais qui est à destination du pilotage en fait financier de notre stack.
Toi, tu es head of data, donc ça veut dire que tu as une casquette un peu plus large que juste de la prestation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien et de tes responsabilités?
Alors, chez Sphere, le rôle de head of data correspond à plusieurs choses. Alors, effectivement, il y a de la prestation. Ça occupe une bonne partie de mon temps quand même, que ce soit pour des missions assez longues, entre 1 à 2 ans, et de la mission très courte, quelques jours ben, pour une semaine, par exemple, je peux faire 3 jours pour un client. Ça dépendra du niveau d'expertise et de ce qui est attendu. Mais c'est jamais des missions full-time, c'est toujours du mi-temps ou des interventions très ponctuelles. Ça, c'est le premier rôle en fait qui m'est attribué. Le deuxième, ça va être le pilotage en fait de l'activité data. Par premièrement ben, l'équipe que je pilote. Donc aujourd'hui, moi je suis head of data pour l'agence lilloise de Sphere, C'est une quinzaine de data au sens large. Donc nous, on adresse les métiers de data engineering et les métiers de data science. On ne fait pas la partie data analyse. Il y a de nouveaux métiers aussi qui apparaissent, comme le MLOps, le DataOps, où justement on va ajouter une couche Ops à ces métiers qui n'étaient pas du tout orientés Ops. En fait, l'écosystème data, c'était assez artisanal il n'y a pas si longtemps. Et donc, je pilote en fait ces développeurs. À la base, on est tous développeurs, pour réorienter leur carrière, faire les bons choix en fait de formation, leur donner des objectifs, faire les entretiens annuels. Ça, c'est la deuxième partie de mon travail. La troisième partie, ça va être l'activité liée à nos partenaires. Donc, il y a toute une gestion en fait de nos partenaires et notamment la partie training liée à nos partenariats. Aujourd'hui, on est partenaire premier avec Google Cloud, ce qui nous donne le droit d'être authorized trainer. Donc, une fois certifié sur la plateforme Google, pour moi, la data, j'ai eu des évaluations en fait pour être authorized trainer pour Google et je suis capable aujourd'hui de dispenser les cours officiels de Google par Sphere, mais pour Google, en portant la voix de Google. Et ça occupe, ça m'occupe 5 jours par mois, pardon, à peu près.
L'écosystème de la data, il est quand même... alors, je ne sais pas s'il est totalement mature ou pas, mais en tout cas, il change et il évolue encore beaucoup. Je ne sais pas si ça s'est stabilisé, mais on a vu beaucoup de nouveaux produits, de manières de faire, ne serait-ce que sur entre 5 et 10 années, même pas 10, je pense, dans les 5 dernières années, on a vu beaucoup de nouveaux produits, de manières de faire. Est-ce que c'est quelque chose qui change encore beaucoup ou qui se stabilise au niveau des produits et des façons de faire?
Je pense qu'on est sur l'accélération. Ce qu'on a vu les 5 dernières années, c'est rien en fait avec ce qui va se passer, enfin ce qu'on a vu en 2020-21 et là avec 2022. Ça s'explique par plusieurs biais. La première chose, c'est le Covid en fait. Le Covid, ça a libéré certains usages. Et là, on avait quelque chose de très très traditionnel où on savait que ça fonctionnait, etc. Il y a des entreprises qui ont dû se réinventer leur business en fait pour répondre au Covid. C'est le cas des retailers. Tous ceux qui n'avaient pas de e-commerce ou de drive, eh ben ils étaient fermés en fait. On ne pouvait plus accéder à leur site. Enfin, on pouvait accéder à leur site, mais on ne pouvait rien en faire. Donc il y a eu un changement comme ça de mindset et ça a du coup demandé d'autres outils. Il y a aussi toutes les poussées des cloud providers qui font que ça change aussi le jeu. Aujourd'hui, il y a trois grands cloud providers en Europe, AWS, Azure et GCP, qui se partagent le gâteau. Le problème, c'est qu'on a aussi des clients, enfin, c'est pas vraiment un problème, c'est qu'on a des clients qui sont conscients que de tout mettre au même endroit, ça peut être problématique. Et donc, on a des acteurs qui arrivent à tirer leur jeu aussi, et qui sont pas liés à un cloud provider, qui sont un peu transverses. C'est le cas de Databricks, c'est le cas de Snowflake, qui sont en fait porteurs d'une solution data, qui ont fait de grosses levées en 2021, et qui répondent aux problématiques du multi-cloud, des enjeux pour éviter le vendor lock-in, et qui vont être là en sauveur un petit peu, entre guillemets, pour modifier les comportements et éviter de tout mettre au même endroit. Il y a beaucoup de petites librairies aussi qui apparaissent, qui répondent à pas mal de besoins. J'ai parlé de DBT, c'en est une parmi tant d'autres. Et après, il y a tout ce qui est autour de l'industrialisation en fait de notre donnée. Il y a de grands mouvements aujourd'hui qui parlent de qualité de données. Qu'est-ce que la qualité de la donnée? Comment on fait? Jusqu'à maintenant, on utilise beaucoup de petits scripts à droite à gauche. Comment les solutions open source en fait vont pouvoir nous aider à faire ça? Donc il y a plein de choses qui se passent. C'est hyper intéressant quand on est dans cet écosystème parce que ça se réinvente quasiment tous les jours. Ça bouge très vite. Il faut se former très vite. Il faut faire attention de pas tomber dans les problématiques du buzzword et de foncer tête bêche en fait sur les nouveaux sujets. On parlait du data mesh tout à l'heure, qui est une architecture qui peut répondre à des problématiques. Ça répondra pas à toutes les problématiques. Et 2019, c'est assez nouveau. Donc, faut prendre aussi un peu de recul. Mais en tout cas, ça bouge beaucoup. J'en discutais, en plus, c'est rigolo parce que j'en discutais avec un collègue cette semaine où je comparais en fait la data au JavaScript il y a quelques temps où on avait une librairie quasiment toutes les semaines. Enfin, c'était ce qu'on avait comme idée. Et c'est à peu près pareil en fait. Aujourd'hui, il y a une communauté data en France qui est très qualitative. Et quand on échange en fait avec ces personnes-là, on se rend compte que même si on a déjà notre vision, eux ont d'autres connaissances, d'autres librairies, d'autres outils. Et en fait, ben, on se rend compte qu'on ne sait rien et que ça bouge tellement vite qu'on a raté peut-être un train parce qu'on était une semaine en vacances. Enfin voilà, il se passe tout le temps quelque chose. Et c'est vraiment, c'est un shift de carrière que j'ai effectué maintenant il y a 4 ans et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout.
Oh, en effet. Une dernière question. Si j'ai envie de me lancer dans les carrières de la data, c'est quoi le background ou la voie royale qu'il faudrait avoir?
Alors, la voie royale, je pense pas qu'il y ait une voie. Aujourd'hui, la data, c'est beaucoup de SQL, beaucoup de Python et une tête bien faite. Donc, je pense que un développeur qui est assez bon en algorithmie, en sens large, hein, il faut pas forcément être docteur en je sais quoi, mais quelqu'un qui se débrouille, qui a la tête bien faite, qui a envie de jouer un petit peu avec du Python, etc., qui est bon dev back par exemple, bah ça peut le faire. Il n'y a pas besoin forcément de connaître des librairies de processing très avancées, de connaître le cloud. Ça peut s'acquérir en fait par la formation, sur le tas aussi, avec des mentors. L'idée, c'est vraiment d'avoir une tête bien faite, de comprendre en fait ce qui se passe, et les problématiques qu'on adresse dans la data, bah, c'est les mêmes problématiques qu'on adresse sur le bac. C'est juste que la volumétrie est plus importante. Donc, une fois qu'on a compris que le traitement et le stockage pouvaient être distribués, le reste, en fait, c'est que de l'adaptation par rapport à ce qu'on sait faire.
Ok. Aurélien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. C'était super.
Ben, de rien, Stéphane.
Retrouvez Aurélien sur Twitter @snork, SN0RKS, et Sphère sur sphere.com/fr. Cet épisode est malheureusement le dernier d'Electromonkeys et je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 2 dernières années. Prenez soin de vous et à une prochaine.